Idée Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, c'est un livre ambitieux que nous propose notre invité ce dimanche, Séverine Kodjo-Granvaux. Il s'intitule « Devenir vivant ». Au fil des pages, la philosophe porte sur la nature et sur notre place dans la nature un regard nouveau. Cet essai, écrit-elle, est une invitation à renouer avec notre condition cosmique pour dessiner une manière d'être au monde en vibrant avec le tout vivant. Pour elle, il est urgent de redéfinir notre condition planétaire. Nous allons en parler dans un instant, donc, dans ce nouveau numéro du magazine Idée, celui qui interroge le monde, un magazine que vous pouvez aussi écouter et télécharger sur le site de la radio, votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez aussi l'écouter sur l'application RFI Pure Radio et vous y abonner, bien sûr. Bonjour Séverine Kodjo-Granvaux.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Je suis ravi de vous retrouver à ce micro. Vous êtes philosophe, chercheuse associée au laboratoire d'études et de recherches sur les logiques contemporaines de l'Université Paris 8. Vous suivez l'actualité des idées pour le journal Le Monde, notamment des idées en Afrique, il faut le rappeler.
Tout à fait. J'ai depuis maintenant 15 ans à peu près une activité de journaliste et je me suis très vite intéressée aux idées africaines. J'ai pendant longtemps été la rédactrice en chef des pages culture de Jeune Afrique et j'ai toujours eu en parallèle une activité de recherche philosophique, notamment sur les philosophies africaines contemporaines.
D'ailleurs, vous avez écrit en 2013, on en avait parlé ici même, philosophies africaines, c'est au pluriel, c'est important. Et là, vous publiez « Devenir vivant ». Alors, je disais que c'était un livre ambitieux de par la thèse que vous développez, Séverine Kodjo-Granvaux, mais aussi par les matières que vous évoquez, parce que c'est un livre où vous convoquez à la fois l'histoire, la philosophie, mais aussi les sciences.
Oui, alors ça a été tout à fait nouveau pour moi. Voilà, il se trouve que j'ai été amenée à réfléchir en 2017 sur la question du vivant dans le cadre des ateliers de la pensée de Dakar, dont la thématique en 2017 était politique du vivant et conditions planétaires. Et très vite, la question de la condition planétaire m'a interroger sur c'est pas seulement qu'est-ce qui fait qu'on est impliqué dans le même monde, mais vraiment sur une planète. Et la planète, elle se pense que dans un univers, un cosmos. Et cette question-là est justement une des questions qui est là en moi depuis que je suis enfant. Je me suis toujours interrogée sur cette singularité quelque part de cette vie sur cette planète avec des animaux, des hommes qui vivaient, qui construisaient des bâtiments qui s'élevaient dans le ciel. Et ça m'a toujours interrogée enfant. Et puis c'est une question que j'avais un petit peu enfouie et que j'ai essayé de faire ressurgir, en tout cas qui a ressurgi d'elle-même. Et pour cela, il fallait que je voie aussi ce que disaient les scientifiques, les astrophysiciens. Alors, ça a été compliqué pour moi parce que j'ai pas du tout une formation scientifique.
Et parce que là, il y a une vraie réflexion sur la notion d'espace-temps, sur la notion du temps même.
Oui.
Et donc, ce sont des concepts, des idées très complexes.
Ce sont des idées très complexes et je me suis rendu compte que au fur et à mesure, en tout cas dans l'évolution des sciences en Occident, à partir de la modernité, pour le dire vite, tout ce qui relève de l'univers va être confié vraiment aux scientifiques, aux sciences dures, et les philosophes vont de moins en moins s'intéresser à cette question-là. Et moi, comme philosophe, ça me posait problème, en fait, de pas avoir ces connaissances-là. Ça me semblait m'empêcher de pouvoir penser la place de l'homme, ce qu'était l'homme, en fait. Et heureusement, les scientifiques, je crois, ont conscience de ça, que leur savoir est devenu tellement spécifique et spécialisé que en fait très peu de personnes sont capables de comprendre ce sur quoi ils travaillent, et il y a beaucoup d'ouvrages didactiques vraiment à destination du grand public. moi, je fais partie de ce grand public, même si j'avoue qu'au bout d'un moment, il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Mais j'ai voulu travailler sur ces notions-là et c'est une manière pour moi aussi de renouer les savoirs, de faire en sorte que les sciences humaines ou la philosophie ne puissent pas uniquement dans le patrimoine intellectuel, philosophique, mais aussi fasse le lien avec les autres sciences.
C'est un retour aux sources, en quelque sorte.
C'est un retour aux sources, tout à fait. C'était effectivement, dans l'Antiquité, les philosophes grecs étaient aussi des astrophysiciens, des mathématiciens, et il y avait un savoir global qu'on a perdu, en fait.
Alors, le titre dit beaucoup de votre livre, « Devenir vivant », vous préconisez, Séverine Kodjo-Granvaux, une sorte d'humanisme, mais un humanisme qui embrasserait l'ensemble du vivant.
C'est ça. En fait, l'humanisme, on le voit bien aujourd'hui, a eu ses limites. D'abord, pendant très longtemps, il s'agissait de penser les droits de l'homme avec toutes les restrictions que ce mot peut contenir, puisque il s'agissait pas du droit des femmes et encore moins du droit des populations noires réduites en esclavage. Et en même temps, c'était un humanisme réellement anthropocentré. Et ça, cette dimension anthropocentrée ressort aujourd'hui où il est question de repenser notre relation au vivant. Et néanmoins, ce qui me préoccupe justement, c'est comment nous, en tant qu'humains, comment est-ce qu'on peut vivre à la fois avec les autres humains au sein de cette humanité, mais aussi avec l'ensemble du vivant. Et à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que d'être homme, femme, humain dans ce processus du vivant? Quelle est notre place? Quelle est notre limite? Quel est notre rôle, etc. Et la question, je crois, aujourd'hui, c'est de dépasser cette pensée humaniste, elle a été très efficace, très pratique, je dirais, pour penser les droits de l'homme, pour penser la démocratie, un certain nombre d'avancées qui ont été permises à travers ces grandes notions qui ont été développées pendant les Lumières. Mais aujourd'hui, on en voit les limites. Et donc, comment est-ce qu'on repense à nouveau frais tout ça aujourd'hui?
Alors, pour arriver à cette conclusion, on va en parler dans un instant, à ce que vous préconisez, vous analysez aussi l'histoire, vous revenez sur l'histoire, et vous avez une analyse très critique, à juste titre d'ailleurs, de ce que vous appelez la colonialité. Et j'aimerais qu'on explique ce terme d'ailleurs.
Ce terme de colonialité, il a été forgé par des intellectuels penseurs latino-américains qui s'appellent eux-mêmes les décoloniaux. En fait, ils partent du constat que la colonisation a été rendue possible parce que il y a une manière d'être au monde qui est une manière d'être au monde coloniale, qui se traduit dans le processus économique, dans le domaine du savoir aussi, et dans le domaine de l'être. C'est-à-dire cette manière d'être au monde qui est une manière d'être au monde coloniale, qui a duré, évolué pendant presque 5 siècles, puisque pour les latino-américains, la colonisation, le processus colonial commence avec l'arrivée, en fait, de Christophe Colomb aux Amériques.
Comme vous dites, quand l'Europe devient l'Occident.
C'est ça, exactement. En fait, c'est un moment de l'histoire où l'Europe s'exporte, mais dans une position de domination. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, que l'Europe devient l'Occident. Et J'ai fait cette nuance-là parce que je voudrais que quand on parle d'Occident, on sache exactement de quoi il s'agit. C'est pas toute la culture d'Europe ou d'Amérique, mais c'est vraiment une culture particulière qui est une culture fondée sur un rapport de domination à l'autre.
Et sur la prédation.
Et sur la prédation et sur la captation des richesses, etc. Et les latino-américains montrent que les rapports de domination n'ont pas fini avec la fin de la colonisation. Et on le voit effectivement, c'est aussi valable, je crois, pour ce qui a été la colonisation du continent africain. On voit très bien que les rapports Europe-Afrique ou Amérique-Afrique restent des rapports de domination et en tout cas des rapports inégalitaires. Et donc la colonialité, c'est le fait de d'entretenir ce rapport colonial au monde, même si la colonisation en tant que période historique n'existe plus. Et en fait, les philosophes africains font la différence entre l'indépendance et la décolonisation. L'indépendance est un moment historique précis, par exemple 1960 pour un certain nombre de pays qui acquièrent leur autonomie juridique. Pour autant, les sociétés ne sont pas et les États ne sont pas décolonisés. Et la décolonisation est un long processus en cours qui n'est toujours pas achevé.
Dans l'analyse de ce processus, Séverine Kodjo-Granvaux, vous précisez aussi que c'est un processus alors masculin.
En fait, je me suis posé une question au départ, c'était de me dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, en Europe, on décide de partir, découvrir le monde, mais la découverte est une conquête. C'est-à-dire qu'on part pour s'approprier les terres, cultiver les terres, et en même temps, on va s'approprier les populations qui vivent sur ces terres, qu'on ne va pas les détruire complètement. Et il y a beaucoup de travaux qui ont une explication économique ou politique du processus colonial. Il me semblait que ça ne suffisait pas à expliquer dans toute sa dimension le processus colonial de conquête. Et je voulais comprendre d'un point de vue psychologique ce qui s'était passé pour que, et à l'époque c'était des hommes qui partaient conquérir le monde. Il se trouve que l'entreprise de découverte et de conquête est contemporain d'un phénomène, et c'est pour ça aussi que j'étais amenée à me tourner vers les sciences, un phénomène épistémique extrêmement important qui est la découverte de l'héliocentrisme. Alors ça peut paraître complètement deux phénomènes séparés, pour autant un certain nombre d'études montrent et que ça a été une très grande blessure narcissique pour l'homme européen. Le terme de blessure narcissique est une expression de Freud. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en Europe, on considérait que la planète Terre et donc l'homme était au centre du cosmos. Et on découvre que en fait, c'est plus la Terre, mais c'est le Soleil qui serait au centre du cosmos de cette galaxie, de cette système solaire en fait. Et c'est une très grande blessure puisque l'homme du coup n'est plus le centre du cosmos. Et moi, j'avance l'hypothèse que à ce moment-là, il y a un repli sur Terre d'un point de vue métaphysique. Et c'est à partir de ce moment-là que les savoirs se scindent. C'est-à-dire que les philosophes ne vont plus penser la place de l'homme au sein du cosmos, mais sur la Terre. Et les physiciens, eux, vont se concentrer sur l'univers. Mais en même temps, ce qu'on observe, c'est que dans la majorité des civilisations et des cultures européennes de l'époque, notamment au Moyen Âge, la Terre était associée au principe féminin et le Soleil au principe masculin. Et il existait un lien organique de l'individu à la société, de la société au cosmos. Et la terre était la terre mère nourricière que l'on respectait, que il y avait des rituels de régénération pour entretenir la terre mère. Mais en même temps, quand le soleil devient le centre du cosmos, c'est le principe masculin qui devient le centre du cosmos. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on observe dans les textes, c'est qu'il y a une volonté de rompre avec le lien organique de l'humanité avec le cosmos, et que les femmes, notamment les sorcières, représentent ce lien organique et ce lien magique, animiste, avec le cosmos, avec la nature, avec la terre, que l'on veut absolument voir disparaître. Et c'est la grande période où les philosophes veulent avoir un rapport, je dirais, très froid, très analytique avec la nature. La nature, c'est ce qu'on va appeler de la res extensa, de la chose qu'on peut étendre, quantifier, et on va en quelque sorte tuer la nature qui va être vidée de son principe, de son élément, élan vital. La matière devient quelque chose d'inerte, de mesurable, de quantifiable. Et il y a des phrases terribles de Francis Bacon qui justifient en fait l'inquisition contre les sorcières, parce que ce sont des femmes qui ont encore un lien organique avec la nature et qui du coup s'oppose à la science, empêche la science de progresser et d'avancer.
Donc une séparation de la nature et de la culture, séparation nature-culture, naissance de l'ego et du cogito, c'est-à-dire c'est aussi Descartes, c'est aussi la naissance du sujet, et c'est donc le primat donné à l'être humain, au détriment du reste.
C'est le primat donné à l'homme. Et c'est là que je fais la différence entre l'homme et l'être humain, puisqu'il y aura une volonté de domination des femmes, parce que justement, les femmes vont être associées à la nature. Elles sont désordonnées. Le XVIIe siècle est vraiment le siècle de l'ordre, où on veut mettre de l'ordre, en fait, dans la nature, on veut la dominer. Et il y aura cette phrase de Descartes qui dit qu'il faut que l'homme se conçoit comme maître et possesseur de la nature. Et effectivement, on rentre dans un processus où il s'agit de dominer la nature et qu'on va transformer en ressources aussi. Et donc, dans cette domination de la nature, on va dominer tout ce qui est associé à la nature. Donc, sont associées à la nature les femmes. Elles sont hystériques, elles sont désordonnées. Le Moyen-Âge accordait une place relativement importante aux femmes dans l'espace public. Là, il va falloir les ramener dans les intérieurs, dans les foyers, et il y aura un contrôle masculin sur les femmes. Et dans les terres que l'on va conquérir, les populations qui existent sont considérées comme vivant à l'état de nature. Et donc cette séparation nature et culture, elle sert aussi à poser l'idée d'un progrès. On va de l'état de nature à la civilisation et donc à la culture. Les populations qui occupent les Amériques sont des sauvages. Donc on peut soit les exterminer, soit au début les faire travailler. Et les Noirs en Afrique sont identifiés à l'état nature, à tel point qu'en fait on va utiliser un vocabulaire animal mais aussi végétal, c'est-à-dire que les femmes et les hommes noirs sont considérés comme du bois d'ébène, c'est-à-dire que on dépossède ces personnes de leur humanité et on les réduit juste à leur force vitale, à leur énergie, leur valeur énergique. Et c'est du bois d'ébène dont on coupe, qu'on déracine, qu'on entrepose dans les cales d'un navire, qu'on exporte comme une marchandise qui arrive en Amérique, ou alors à ce moment-là, on les liste dans les biens du propriétaire, à côté des têtes de cheptel, et on animalise ces populations, on les animalise à tel point que même dans les plantations américaines où on décide en fait on estime que c'est plus rentable en fait de faire se reproduire les esclaves sur place plutôt que d'aller en chercher en Afrique, en fait les hommes vont être considérés comme des étalons qu'on force à violer les femmes pour qu'ils se reproduisent, et l'enfant à naître est tout de suite considéré comme le bien du propriétaire. Donc là, on a vraiment une identification de toute cette humanité à l'état de nature, à la nature, à une ressource naturelle qu'on peut exploiter.
Alors continuons cette exploration de cette évolution, si je puis dire, à l'appui de votre livre. Vous examinez aussi cette période du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, on en a beaucoup parlé dans cette émission, notamment avec Corinne Peluchon, sur la notion de raison et la notion d'autonomie également, mise en avant par les Lumières. Vous dites que l'autonomie est un leurre.
Mais l'autonomie, en fait, elle est très efficace pour penser à ce moment-là la singularité du sujet, la reconnaissance de l'individu comme une personne qui a des droits. C'est les droits de l'homme, c'est penser effectivement la liberté, l'autonomie. Et en ça, l'autonomie est un concept très efficace. Et en même temps, il nous a fait perdre de vue que l'on est toujours lié et interrelié. On n'existe pas en tant qu'individu, en tant que tel. C'est-à-dire que cet individu est toujours relié soit à une cellule familiale, soit à une société, mais aussi au vivant. Et en fait, l'autonomie de l'humanité nous a fait perdre de vue le lien fondamental qu'il pouvait y avoir avec l'ensemble de ce qu'à l'époque, on appelle la nature et qu'il n'y a pas une séparation nature et culture. En fait, on a perdu ça de vue. Et on a perdu de vue le lien qu'il y avait entre l'humanité et le cosmos.
De même, vous revenez, Séverine Kodjo-Granvaux, dans ce livre, Devenir vivant, sur la notion d'universel. Vous dites qu'on confond la notion d'universel avec la notion d'occidental.
Oui, c'est une lecture que je fais, que je suis pas la seule à faire et qui notamment qui a été développée par les penseurs latino-américains et que je trouve assez intéressante et assez pertinente, mais qui est aussi une réflexion qu'a faite Merleau-Ponty dès les années 50, qui montre que la grande notion d'universel, qui a été la notion d'universalité qui a été portée par les Lumières et qui a vraiment permis aux sociétés européennes de faire des progrès, enfin j'aime pas trop la notion de progrès, mais en tout cas d'avoir des avancées en termes de reconnaissance des droits des individus, etc., et qui a vraiment été très efficiente. En fait, après, il y a comme une espèce de démesure dans l'appréciation de ce concept qui fait que on est porté à ce moment-là, les Lumières sont portées à croire qu'en fait elles ont le modèle suprême de civilisation et que ce modèle il faut l'exporter. Et c'est notamment une des justifications de l'entreprise coloniale, c'est-à-dire qu'il faut aller coloniser d'abord. La colonisation est d'abord un projet de conquête de terres et notamment de terres à exploiter. Et ça, c'est très clair dans les traités de droit colonial où on explique qu'a le droit de coloniser une terre, celui qui estime que la terre est insuffisamment mise en valeur. Donc on est d'abord dans un rapport de domination de la terre, mais aussi la deuxième justification est une justification civilisationnelle, c'est-à-dire que c'est la fameuse mission civilisatrice, on apporte la civilisation parce que on estime que son modèle dans sa société, donc la société européenne, est le modèle pour toute l'humanité.
On peut dire aussi, Séverine Kodjo-Granvaux, que c'est une interprétation qu'ont fait les successeurs des Lumières de ces notions de raison et d'autonomie, parce que même les philosophes des Lumières, Diderot par exemple, avaient conscience des dangers que représentait cette notion de raison et cette notion d'universel.
Oui, il y a toujours eu des résistances. Les cultures, les idées, les épistémées ne sont jamais monolithiques. Il y a toujours effectivement et même un des grands courants qui s'est opposé à cette distanciation par rapport à la nature était par exemple le courant romantique. Et il y a toujours eu chez les philosophes, même au sein des Lumières, et j'ai envie de dire heureusement, des voix qui se sont élevés à la fois pour dénoncer cette primauté de la raison froide, en fait, dans l'approche au vivant, dans l'approche à l'humanité, qu'on pouvait faire de notre rapport à l'humanité, et dans les liens qui s'établissaient avec les colonies et les populations africaines. Il y a toujours eu, effectivement, des voies pour dénoncer même l'esclavage. Mais il y a quand même cette grande tendance qui l'a emporté quelque part, qui est majoritaire, qui est de penser et d'ériger ce modèle civilisationnel et cet universel comme étant le seul universel possible.
D'autant qu'il a été récupéré, entre guillemets, par un système économique qui s'appelle le capitalisme.
Tout à fait. Et c'est une manière de penser un modèle, une manière d'être au monde et au final, c'est ce qui va donner la mondialisation. C'est-à-dire cette manière d'avoir un système économique, mais aussi culturel, qui s'étend en fait sur l'ensemble de la planète et qui, lorsqu'il y a des résistances, essaye d'englober ces résistances pour les retourner contre elles en fait.
Ah donc, venons-en à cette époque d'aujourd'hui, ce début de 21e siècle, où ce modèle est, en tout cas dans les études, chez les philosophes, de plus en plus remis en question.
Ce modèle est remis en question par les philosophes, mais aussi par des scientifiques qui montrent que la crise, notamment la crise climatique, écologique que l'on vit, est liée à ce qu'on appelle l'anthropocène. Donc c'est ce changement d'ère géologique du fait de l'activité humaine, qui est la raison de anthropos l'homme, mais en même temps, c'est pas de n'importe quelle activité humaine, c'est une activité humaine très précise qui est justement cette économie capitaliste qui s'est développée et qui en fait, qui est, au final impose un rapport à la fois à la domination et aux autres, aux subalternes, qui est un rapport de domination, d'exploitation et qui n'a pas de frein. Et ça nous amène à la fois des scientifiques, mais aussi peut-être des économistes, des philosophes, de repenser le modèle civilisationnel dans lequel on est embarqué. Ce que j'ai voulu montrer dans Devenir vivant, c'est qu'en fait, la domination de la nature et la domination, pour le dire très rapidement, entre le Nord et le Sud, ces rapports inégalitaires ont un même fondement idéologique, en fait, un même fondement historique. Et je crois que, pour moi, ça me semble important aujourd'hui, si on veut repenser notre rapport à la nature, dans le cadre de la crise écologique, on ne peut pas le faire sans repenser aussi les rapports Nord-Sud, les rapports inégalitaires, et sans s'interroger sur notre rapport à l'autre. Et inversement, si on travaille sur les rapports Nord-Sud et ce déséquilibre dans cette relation, on ne peut pas le faire aussi sans prendre en considération le rapport qu'on a avec la planète. D'ailleurs, par exemple, un exemple très concret, en fait, on sait très bien que l'essentiel des réserves de coltan et de cobalt nécessaires, par exemple, pour la fabrication de nos smartphones, sont en Afrique, en République démocratique du Congo, que ça se fait dans des conditions d'exploitation des populations épouvantables et que ça se fait aussi au détriment de l'environnement avec énormément de pollution.
Séverine Kodjo-Granvaux, vous dites qu'il faut, il s'agit maintenant d'habiter pleinement l'univers, je vous cite, et habiter avec lui. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous inventez, mais vous reprenez cette notion de cosmophilosophie. C'est peut-être vous qui l'inventez d'ailleurs, ce mot.
Oui, parce que en fait, en essayant de comprendre comment est-ce qu'on avait pu en arriver là. Je suis remontée effectivement à toute cette période des Lumières et je me suis rendu compte en tout cas que les philosophes finalement avaient abandonné le cosmos et avaient oublié de penser cette relation au cosmos. Cette relation de lien, d'interdépendance a bien été mise en avant par tout le courant écologique, mais il me semble que on peut pas s'arrêter à notre lien avec la Terre et que on est embarqué dans un ensemble beaucoup plus vaste qui a un lien d'interdépendance avec les astres, avec l'univers et que ça nous permet de comprendre comment fonctionne aussi notre planète.
Éprouver le souffle cosmique qui relie toutes et tous.
Oui, le souffle cosmique, en fait, on l'absorbe tous les jours. Nous sommes des poussières d'étoiles. Il y a cette unité, en fait, ontologique et même matérielle entre les étoiles et nous. On sait que la Terre est née des composants que l'explosion des méga-étoiles ont libérés dans l'univers, que lors de ces explosions, ces méga-étoiles ont produit des éléments à la fois minéraux, mais aussi organiques qui existent, comme l'or, comme le silicium, comme le magnésium qu'on tient dans notre propre corps. Et donc, en fait, nous sommes de la poussière d'étoiles. Mais aussi, le lien, il va plus loin, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui nous maintient en vie aujourd'hui. On sait très bien que s'il y a de la vie sur Terre, c'est aussi parce que il y a ce processus de photosynthèse qui s'opère par les plantes, que ce processus de photosynthèse, que les plantes captent en fait l'énergie du soleil, le souffle du soleil, et que ensemble, végétal et animal, en fait, on coproduit l'atmosphère qu'on respire.
Vous avez dans la salle de l'Assemblée générale des Nations unies, et Barack Obama le mentionne dans ses mémoires, il y a une grande tapisserie d'un poète persan du XIIIe siècle exactement qui s'appelle Saadi. Et sur cette tapisserie, on lit la chose suivante, « Les êtres humains sont membres d'un seul corps car ils sont créés d'une seule et même essence ».
C'est très juste, en fait, ce qui m'a fascinée quand je travaillais sur ce livre, c'était de voir comment des textes, des rationalités complètement différentes pouvaient donner une même lecture de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des textes scientifiques, d'astrophysiciens qui aujourd'hui disent exactement la même chose que ce qu'on peut dire dans des traditions philosophiques africaines, notamment à travers la notion d'Ubuntu, mais aussi ce qu'on peut dire des textes séculaires comme les philosophies de l'éveil asiatique, comme le bouddhisme et l'hindouisme. Et en fait, il y a une convergence de points de vue qui est assez troublant parce que, en tout cas, moi, comme philosophe, ça m'a vraiment posé question de voir qu'il y a différentes manières, finalement, d'accéder au réel et d'en faire une même lecture. Et ça, je pense que ça doit nous amener à beaucoup plus de modestie parce que on a une tendance, je dirais, de manière générale, à penser que seul est valable le discours scientifique qui arrive à nous expliquer comment fonctionne le monde. Encore que ça, c'est une lecture que nous, non-scientifiques, faisons de la science, parce que je crois que les scientifiques sont beaucoup plus humbles et ont beaucoup plus savent que leur connaissance est limitée et est toujours amenée à évoluer. Mais on a, voilà, cette foi, j'ai envie de dire, dans la science, au détriment d'autres mode de connaissance qu'on catégorise dans le mode de la croyance et qu'on dévalorise, et notamment ça a été un des éléments qui a justifié l'entreprise coloniale, qui était de dire que ces populations-là n'avaient pas développé une pratique de la science, n'avaient pas de savoir scientifique, mais au final nos scientifiques aujourd'hui arrivent à prouver, à expliquer ces savoirs-là, mais qui sont aussi pas seulement des savoirs non occidentaux, puisque aujourd'hui certains scientifiques arrivent à expliquer pourquoi les druides celtes faisaient telle chose plutôt qu'une autre, et que en fait on commence aussi à comprendre comment fonctionnaient ces savoirs-là.
Alors une réflexion, il y a beaucoup de poésie dans votre livre. Vous êtes philosophe poète également, parce que vous dans cette appréciation du tout univers, il y a beaucoup de poésie aussi. Du moins pour un littéraire, un scientifique ne verrait pas les choses comme ça, mais vous avez des réflexions sur même la notion du temps, la notion de l'espace-temps, la notion de l'appréciation de la durée. Ça, c'est une véritable réflexion philosophique. Vous reprenez Bergson, par exemple.
Oui, la question du temps me semble intéressante, puisque avec, c'est Bergson qui le dit, on a, avec cette idée de progrès, on a spatialisé le temps qui s'écoulerait selon un passé, un présent et un futur, et qui finalement est la sensation de vécu que l'on a, l'expérience que nous faisons du temps. Il y avait hier, il y a aujourd'hui et il y aura demain. Et en même temps, cette conscience conception spatiale du temps, elle est démentie par les astrophysiciens qui expliquent qu'il n'y a pas un écoulement comme ça du temps que en fait, ça c'est la portée en fait de la théorie de la relativité d'Einstein qui explique qu'on vit un espace-temps et que en fait le temps s'éprouve différemment selon le positionnement dans l'espace. Et il y a cette explication de Langevin qui nous dit que...
Qui est assez fascinante, effectivement, oui.
Oui.
Il faut dire de quoi il s'agit.
Si, par exemple, on a deux jumeaux, on en met un dans une fusée qui se déplace à la vitesse de la lumière et un autre qui reste à terre. Et le jumeau part à la vitesse de la lumière, je crois, jusqu'à la Lune, il me semble. Et en fait... Bon, il fait son aller-retour, il a le temps juste de prendre son déjeuner, avec le café peut-être. Et pendant ce temps-là, son jumeau qui est resté sur Terre, lui, aura vécu plusieurs millions d'années. Et c'est ce qui explique qu'en fait...
Parce que l'autre sera déplacé à la vitesse de la lumière.
Voilà, c'est ça. Et que l'autre aura vécu un autre temps. Ce qui explique, par exemple, que nos GPS qui sont dans les satellites, en fait, vivent aussi un autre temps et qu'on est amené à les corriger régulièrement parce que sinon, il y a un décalage. Et donc, cette notion de temps, en fait, aussi, elle m'intéresse parce que d'un point de vue existentiel, d'un point de vue intime... On ne vit jamais que le présent. C'est-à-dire que notre présent, c'est un amalgame fait avec le passé, mais aussi avec le futur. C'est-à-dire que avec la manière dont on se projette dans le futur, ça influence déjà à la fois notre présent et notre lecture du passé. Et que en fait, les temps se mélangent beaucoup plus intimement que ce qu'on a l'impression de vivre.
Alors, ce qu'il faut préciser, quand vous dites tout cela, Séverine Kodjo-Granvaux, il y a cette unité cosmique, mais cela n'empêche pas la diversité des êtres humains.
C'est la grande leçon, j'ai envie de dire, du vivant et de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une unité de fondement et un principe de vie, mais qui n'existe que dans le divers. La vie n'existerait pas sans la biodiversité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une des raisons de la sixième extinction de masse en cours, c'est justement cette perte de la biodiversité. Mais il y a aussi un principe cosmique qui se diffracte et qui s'exprime ensuite au pluriel. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de penser cet universel de fondement. Il y a un principe de vie qui se donne de manière extrêmement différente en fonction du monde animal, du monde végétal, mais il y a aussi une humanité qui s'exprime de manière diverse. Et on voit bien qu'il n'y a pas deux individus qui se ressemblent, et même les jumeaux, chacun a sa singularité. Donc en fait, l'universel n'existe que dans le pluriel. Et le fait que moi, je sois différent de vous, c'est justement ce qui fait que nous sommes universels.
Si vous écrivez « si universalisme il y a, c'est uniquement et c'est incommensurable, celui d'un univers de fondement, il n'y a qu'un principe cosmique, qu'un ordre du vivant, qu'une humanité ». Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette reconnaissance de la nature, par exemple, les choses progressent. Dans un livre passionnant, un philosophe qui s'appelle Sacha Bourgeois-Gironde étudie au PUF, c'est un livre publié au PUF, la décision qu'a prise la justice néo-zélandaise de donner une personnalité vivante et indivisible, donc à donner une existence à une rivière, à un fleuve. Les choses évoluent quand même.
Les choses évoluent et je trouve que ça c'est très intéressant, c'est de voir comment des communautés autochtones, dites indigènes en fonction de là où on se place, en fait savent jouer avec le droit de facture moderne, occidentale, pour préserver leur manière d'être au monde. On observe effectivement, il y a eu cette expérience en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Australie, aussi en Amérique du Sud, où des populations indigènes qui ont été colonisées, qui ont un autre rapport au monde, qui ont un rapport justement qui n'est pas de rupture entre la nature et la culture, et qui vivent dans un grand tout dans lequel ils sont extrêmement liés, ce grand tout étant la nature, mais aussi l'univers et le cosmos.
Cher Philippe Descola.
Tout à fait. Montre que En fait, pour beaucoup de ces populations, soit la terre est une divinité, soit par exemple une montagne, une rivière, une fleur, quelquefois un rocher, sont considérés comme des divinités ou en tout cas des êtres vivants à préserver, se retrouvaient face à des sociétés qui n'avaient pas cette même approche. Et donc en fait, elles ont utilisé le droit de facture occidentale pour faire reconnaître ces éléments naturels, vivants, et pour leur faire attribuer une reconnaissance juridique. C'est pas la première fois dans le droit qu'il y a une reconnaissance juridique pour un objet non animé. Nos sociétés sont les entreprises sont des personnalités juridiques, mais il s'agit là d'accorder des droits ces éléments naturels pour les préserver et pour les défendre.
Oui, et d'ailleurs en ce qui concerne ce fleuve de néo-zélandais, il s'agit aussi de le transformer en acteur. C'est-à-dire que ce fleuve peut, en fait, entrer dans ce que vous dites, dans les relations humaines.
Tout à fait. Alors, je connais moins cet exemple néo-zélandais, mais je sais qu'il y a exactement le même phénomène qui s'est passé en Équateur, où notamment une rivière a gagné son procès contre une municipalité. En fait, la rivière est reconnue comme personnalité juridique, avec des droits. Il se trouve qu'une municipalité a détourné le cours de cette rivière pour pouvoir construire tout un plan d'aménagement du territoire avec un pont, etc. Donc c'est dans un objectif de développement. Et le fait d'avoir détourné la rivière produit à chaque pluie de fortes inondations, détruit les cultures des paysans, etc. Et il y a la rivière, puisqu'elle a une personnalité juridique, elle peut se défendre. Donc il y a tout un processus pour que quelqu'un parle au nom de la rivière, représente la rivière et porte plainte au nom de la rivière. Il y a eu tout un débat juridique extrêmement intéressant à ce moment-là pour savoir qui avait le droit de parler au nom de la rivière, qui pouvait représenter la rivière, et aussi quels étaient les droits qui prévalaient. Est-ce que le droit de la rivière prévaut sur les droits humains, enfin les droits des hommes ou pas. Et en fait, le juge a émis une décision dans laquelle il condamne la municipalité à dédommager la rivière. Donc ça veut dire que la municipalité a dû détruire le pont en question et remettre la rivière dans son lit naturel. Mais aussi, il a été décidé que, et ça je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est que le droit au développement ne peut pas se faire au détriment du droit à la nature, parce que on n'aura pas un développement viable pour les hommes si on détruit la nature. Et que, au fond, en fait, il n'y a pas une opposition entre les droits de la nature et les droits de l'homme. Ce n'est pas une manière de dire que les droits de la nature sont plus importants que les droits des hommes et des femmes, mais c'est une manière de dire que, finalement, le droit à un environnement sain est un des droits humains les plus fondamentaux, parce que l'on sait, par ailleurs, que si vous n'avez pas, par exemple, accès à l'eau potable, etc., facilement, ça crée des conflits. Et qu'au final, avoir un environnement sain est un des droits humains les plus fondamentaux.
Alors, pour revenir à la démarche qui est la vôtre, la démarche philosophique, vous dites, Séverine Kodjo-Granvaux, qu'il s'agit d'entrer en résonance.
Oui, parce que on a eu un rapport, une relation à ce qui nous entourait, qui était une relation de domination. Quand je dis « on », c'est quand on est issu des sociétés occidentales. Même si, effectivement, il y a toujours eu, ce que je disais très rapidement précédemment, il y a toujours eu des résistances, et même au sein des sociétés occidentales, il y a aussi d'autres manières de vivre avec à la fois la Terre et l'univers. On a tous, dans nos campagnes françaises, par exemple, il y a toujours ce qu'on appelle des rebouteux, des magnétiseurs, des médiums, etc., qui ont notre rapport au vivant et au cosmos.
Et cette notion d'entrée en résonance est à la fois simple et compliquée à réaliser.
Mais c'est-à-dire que comment sortir de ce rapport de domination et avoir une autre relation qui est une relation de qualité avec à la fois les autres femmes et les autres hommes avec qui nous devons faire société, mais aussi avec l'ensemble du vivant. Parce que Il suffit pas de poser le fait que nous sommes tous interdépendants. Il y a des relations qui sont complètement toxiques, il y a des liens qui étouffent. Et donc, au contraire, c'est comment avoir des liens qui libèrent et des relations qui soient bénéfiques pour les uns et pour les autres. Et il me semble que si la crise civilisationnelle, j'ai envie de dire, que l'on est en train de traverser, c'est à la fois une crise du sens, qu'on a perdu le sens de notre existence, mais pour moi, c'est fondamentalement une crise de la résonance. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus, qu'on ne vibre plus avec le monde et avec l'univers dans lequel nous nous inscrivons. Alors ça peut paraître un peu vaporeux, un peu mystique, mais en fait, lorsqu'on ne vibre plus, lorsque l'on ne vibre plus au monde, on est dans un rapport à la fois muet mais presque anesthésié avec ce qui nous entoure. Et ça, on l'observe dans des phénomènes de dépression, dans les phénomènes de burn-out, où on est dans un rapport qui n'est plus un rapport de vibration, en fait, qui n'est plus dans un rapport de résonance avec le monde qui nous entoure.
Là, il s'agit d'un enfermement.
Il s'agit d'un enfermement, mais dans un enfermement qui, en plus, nous étouffe. Et vraiment, la question du souffle, elle est extrêmement importante. C'est comment est-ce que on arrive à vibrer, à souffler, et comment est-ce qu'on arrive à projeter cette vibration dans le monde, et en même temps, comment le monde me ramène une vibration qui est modifié et qui revient en moi et qui me modifie. Et j'aime beaucoup cette image de l'écho. L'écho, c'est votre voix, c'est-à-dire le plus intime de vous-même, qui sort à travers la production des cordes vocales, à travers votre bouche, qui se projette dans le monde. Donc vous vous projetez dans le monde, mais l'écho vous revient, votre voix vous revient à travers l'écho, mais elle revient toujours un peu modifiée. Et elle revient à l'intérieur de vous. Et je trouve que c'est une très belle image de montrer comment est-ce qu'on peut se projeter dans le monde, que le monde va nous modifier en retour, et nous revient, et que nous revenons modifiés par notre expérience au monde.
Cela suppose un exercice individuel. Ce n'est pas donné à tout le monde, en tout cas aujourd'hui, de faire cela.
Non, ça demande un effort. En fait, ça demande d'abord une prise de conscience et de nous interroger sur comment est-ce que nous voulons être au monde, vivre avec le monde. Et puis, c'est aussi cette idée de dire que nous ne sommes pas nés une fois pour toutes. Notre vie, elle consiste justement à sans cesse renaître et renaître différemment.
Car tout est mouvement.
Tout est mouvement.
Y compris dans l'univers, surtout dans l'univers.
Surtout dans l'univers, dans le vivant. C'est la grande leçon du vivant, c'est que tout est mouvement et que tout est création et co-création. Et qu'en fait, notre expérience nous modifie et donc enfante une individualité qui sans cesse évolue. Et je crois que moi, il me semble, une grande question, c'est comment faire de notre vie une œuvre. C'est-à-dire comment est-ce que, justement, on travaille sur nous-mêmes, comment est-ce qu'on se crée, on se recrée avec tout ce que notre expérience nous apporte, est-ce que l'expérience avec l'autre, avec le vivant, nous apporte.
Oui, là aussi, c'est un apprentissage.
C'est un apprentissage
faire
de
sa
finit
vie
jamais.
Un roman, une œuvre d'art, c'est très ambitieux comme programme.
Il me semble que c'est ça être vivant, c'est ça devenir vivant. Devenir vivant, l'expression peut sembler paradoxale puisqu'on est vivant ou on ne l'est pas, mais il me semble que justement devenir vivant, c'est apprendre à être justement, à être pleinement vivant, à nous comporter comme le reste du vivant qui est toujours en évolution, qui est toujours en création de soi-même. Et c'est ça, en fait, je crois, le grand défi à la fois de notre humanité et de nous en tant que personne. C'est justement comment évoluer sans cesse. Et ça demande justement d'être en éveil et d'être en attitude d'attention, d'être en résonance à la fois avec ce que nous sommes, parce que je crois que beaucoup de crises existentielles et de dépressions aussi existent parce que on ne fait plus attention à qui l'on est, ce que l'on veut vraiment, quelles sont nos aspirations. Donc c'est une manière de renouer avec soi-même et c'est pour être pleinement soi-même qu'on peut, je crois, alors s'ouvrir aux autres.
Merci Séverine Kodjo-Granvaux. Votre livre est à la fois un livre de philosophie, de poésie, une réflexion sur le temps. Il est très riche ce livre. Il s'intitule donc « Devenir vivant » et il est publié aux éditions Philippe Ray. Merci.
Merci à vous.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur le site de RFI et sur l'application RFI Pure Radio. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde.